Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Par rapport à nous, vous apprenez votre langue à l'école. Nous, on ne l'apprend pas. On n'apprend pas notre grammaire, on n'apprend pas, on n'a pas des cours d'anglais genre. C'est alors voici comment faire pour.
T'apprends pas à écrire.
Avant d'apprendre le français, genre à l'université, j'aurais pas pu te dire c'est quoi un nom ou un verbe, oui, mais un adjectif et tous ces trucs-là.
Adverbe.
Parce qu'on n'apprend pas ça. Okay. Ou on l'apprend mais pendant 2 secondes. Parce que tu demandes à n'importe quel anglais what's the subjunctive, ils vont faire pardon. Ouais, ils vont dire, I'm sorry, what the subjunctive? Is that that new pizza place in East London?
Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien, mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien, et d'autres que je connais pas du tout, sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Paul Taylor. Merci d'être là, bonne écoute.
Le prochain qui va venir ce soir, il est irlandais, anglais, il vit en France. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, du bruit pour Paul Taylor.
Hello, Montreux, make some fucking noise! Yes! Hello! Bonsoir, très content d'être là ce soir, je viens pas d'ici, je viens de l'Angleterre. Est-ce qu'il y a des Anglais dans la salle? Yes! Fucking Brexit! Fuck. Tellement content d'être là, je suis vraiment content, je m'appelle Paul, elle a dit j'habite en France, et pour habiter en France, il faut parler le français, right? Mais c'est fucking compliqué la langue française parce que vous faites des choses avec la langue française exprès pour emmerder les gens qui apprennent le français. Right? Like le fucking verlan. What is this? On va switcher des mots comme ça pour aucune raison. Truc de ouf. No. Truc de ouf, je connaissais pas ouf. Moi je pensais que c'était un synonyme pour génial. Ouais, c'est génial, c'est top, c'est ouf. No, Paul, t'es con en fait. Ouf, c'est le, tu prends le mot ouf et en fait le mot ouf, c'est le mot fou, mais à l'envers. Fuck off. Trop compliqué, je connaissais pas. Je connaissais pas le système, on m'a dit aussi le verlan en fait. Le verlan, le mot verlan, c'est le mot l'envers, à l'envers aussi. Level 2 unlocked. Donc j'ai commencé à comprendre le verlan. Ok, il faut switcher des mots, mais ça s'arrête pas là parce qu'il y a le double verlan, des mots qui sont doublement verlanisés. Right? What the fuck is this? Une fois que le mot verlan il rentre dans le dictionnaire officiel, vous recommencez le processus de verlanisation. Pff, level 3 unlocked. Jesus. Le mot femme par exemple, le mot femme en verlan normal, c'est quoi? Meuf, right? Mais meuf est rentré dans le dictionnaire maintenant, donc les gens ils disent quoi? Femeux. Femeux is not a fucking word, c'est pas un mot. C'est juste des bruits qui sortent. Femeux. Femeux. On dirait un anglais qui essaye de lire le mot femme mais qui sait pas comment. Femeux. Femeux. Pareil avec le mot arabe, même transformation. Arabe est devenu beurre. Beurre est rentré dans le dictionnaire. Maintenant les français ils disent quoi? Terroriste. C'est... It's not fucking funny. Langue de merde.
La première fois que tu viens à Montreux, tu arrives et tu fais un accent anglais.
Ouais.
Enfin, tu parles en français avec un accent anglais.
Bonjour, je m'appelle Paul, enchanté.
Je voulais savoir pourquoi, parce qu'en fait, les gens te connaissent un peu au moment où tu bosses sur scène à Montreux. T'as déjà fait What the Fuck Friends, t'as déjà fait La Bise, qui avait lancé ta carrière, qui était une espèce de vidéo où tu décortiquais La Bise, qui avait fait plus d'un million de vues. Mm-hmm. T'étais quand même un peu...
Bah, What the Fuck France, c'était, ça datait de 3 mois hein, avant le premier Montreux, donc c'était pas si... J'étais pas si connu que ça, et What the Fuck et La Bise, c'est en anglais. Je parle pas français dans ces trucs-là.
Ouais.
Quand j'ai commencé le stand-up en 2013, j'ai commencé en anglais et j'ai commencé en français, les deux en même temps. En anglais, ça se passait plutôt bien.
Ouais.
Et en français, je me prenais des fourres monumentales pendant 3 ans. Parce que le problème que j'ai, enfin que j'ai toujours maintenant, c'est que déjà monter sur scène devant des gens, c'est compliqué. De parler en public, c'est... t'as peur. Ensuite, parler en public pour exprès faire rire du truc, ça ajoute un autre niveau de tu te chies dessus. De faire ça dans une langue étrangère qui est pas ta langue maternelle, c'est encore un autre problème. Et moi, mon problème, c'est le dernier niveau, c'est que c'est dans ma langue étrangère, mais que je parle trop bien pour passer pour quelqu'un d'étranger.
Oui, c'est-à-dire que t'as pas d'accent quand tu parles français.
Ouais.
C'est ça.
Au début, quand je faisais des scènes ouvertes à Paris, et je faisais la même chose que je faisais en anglais, mais quand je monte sur scène en anglais et je dis hi, my name is Paul, I'm English, French people, you do things that are weird, il y a aucune questionnement de bah c'est en anglais, évidemment c'est en anglais.
Ouais.
Mais quand je monte sur scène et je dis salut, moi je m'appelle Paul, je suis anglais, et puis vous les Français vous faites des trucs bizarres. Là le public se disait bah, c'est un Français qui se la raconte, c'est qui ce mec-là, parce que c'est plus crédible pour vous les Français qu'un Français maîtrise bien l'anglais que je sois un anglais qui parle parfaitement français. J'ai fait 3 ans jusqu'à 2016 où je prenais des bides monumentales. Et il y a un truc qui a switché, je sais pas, en 2016, quand j'ai quitté mon ancien boulot pour vraiment me consacrer à l'humour, j'étais obligé de reprendre des scènes françaises, mais tout le temps, parce que c'est comme ça que tu rôdes des trucs. Et je sais pas, un jour, j'ai trouvé ce truc de monter sur scène en mode britannique, juste pour voir ce que ça allait faire, genre oh, bonjour, je m'appelle Paul, je suis anglais, les Français, vous faites des trucs bizarres, comme la bise.
C'était les mêmes textes.
C'était les mêmes textes, mais avec le faux accent.
Et ça cartonnait.
Et ça cartonnait. Et j'ai fait ah ok, c'était le manque de crédibilité que je sois anglais. Et donc je faisais le truc où je faisais genre 3 minutes avec le faux accent.
Ouais.
Et au bout de 3 minutes, je casse l'accent pour dire bon, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde. Et là, tout le monde fait oh le bâtard. Je suis tellement content d'être là ce soir sur scène, être payé pour faire ça, c'est mon travail maintenant. C'était pas toujours le cas avant de faire de l'humour. Je travaillais chez Apple. Apple, you know Apple? Yes, fucking iPhones, yes. Good, you know. Je travaillais chez Apple et j'étais... c'est pour ça que je suis venu en France, c'est pour transférer mon job de l'Angleterre en France. Et en France, j'avais un nouveau poste, j'étais formateur mondial. C'était ça mon titre de poste. Et en tant que formateur, j'avais la chance de voyager le monde entier, business class... Hotel de luxe, c'était bien payé. Et en fait, en 2015, après 9 ans dans la boîte, j'ai décidé de démissionner de ce poste-là pour suivre mon rêve de faire rire les Français. Hashtag no regrets.
T'as quitté ton taf pour faire de la scène.
Mm.
Je trouve ça intéressant parce que tu fais partie des rares humoristes à avoir fait une réelle reconversion dans le sens où t'étais déjà dans un travail qui était entre guillemets ta vie, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, c'était une vraie... j'avais une vraie vie. J'ai passé 9 ans chez Apple. J'ai commencé vendeur dans les magasins et je suis devenu responsable de formation mondiale. Mais comme les formations, elles duraient 2 semaines et c'était 7 heures par jour pendant 10 jours, bah, du coup, je me sentais à l'aise d'injecter des blagues dans mes présentations et dans les formations. Donc, je suis très content d'avoir fait ça. Et j'étais content aussi de la réaction de ma famille et mes amis en Angleterre. J'ai annoncé, ouais, je vais suivre mon rêve. C'est cool, c'est génial. Ils m'ont tous dit, ouais, c'est amazing. Life is short, la vie, elle est courte. Suis tes rêves, Paul, c'est cool. Right? Même mes parents, ils m'ont suivi. Ils ont dit, ouais, c'est cool, Paul. Suis tes rêves. Parce que nous, on n'a pas pu suivre nos rêves à nous. Parce qu'on a eu toi. Oh, fucking thanks, mom and dad. Mais très content, tout le monde très positif en Angleterre. Par contre, les Français, mes amis, quand j'ai dit « Ouais, je vais démissionner pour suivre mon rêve », ils m'ont tous dit « Ah, t'es con ? Tu démissionnes de ton poste chez Apple bien payé 9 ans, mais t'es malade ? Why ? What's wrong ? Je comprends pas, ma peau. Attends, laisse-moi bien réfléchir. Tu démissionnes, c'est-à-dire que tu ne cherches pas à être viré de ton poste et tu demandes pas une rupture conventionnelle ? No, why? Ma Paul, si tu démissionnes tout court comme ça, le problème c'est que tu vas pas toucher les ACDIC. Et je comprenais pas non plus, j'ai demandé la traduction à mon ami, j'ai dit c'est quoi en anglais ça, il dit I don't know, you will not touch the ACDIC. Sorry, I will not touch the ACDIC.
What the fuck are you talking about?
Est-ce que c'est tout de suite que tu t'es dit, putain, l'angle des différences culturelles, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, c'est vraiment ça dont je veux parler?
C'était pas un choix, je me suis pas assis pour dire comment est-ce que je peux percer en France. Ouais, je vais parler des différences culturelles et puis je vais faire des blagues là-dessus. C'est venu naturellement parce que c'était ma vie en fait. Je racontais ma vie comme la majorité des gens qui font du stand-up. Et du coup, ma vie, c'était d'être un Anglais en France. Et forcément, j'ai remarqué des trucs que je comprenais pas, des quiproquos de langage, des quiproquos de culture, de ce qui se passait. Donc, c'était pas un choix mental de me dire « Alors, il faut absolument que tout ce que je fais reste dans le truc français-anglais. » Parce qu'en vrai, même si le premier spectacle a été marketé comme « Je suis un Anglais en France et puis c'est les différences », la moitié du spectacle ne parle pas de ça.
Je comprenais pas que le gouvernement français, en fait, peut payer 2 ans de salaire. Si on est viré d'un boulot, aussi on obtient cette rupture conventionnelle et ça s'appelle toucher les asses dick for 2 years. C'est quoi? Ass la première année, dick the second? Comment ça fonctionne? Je sais pas. Je connaissais pas le système. Et peut-être, je me suis dit, peut-être que j'étais con, peut-être que j'aurais pu arriver à ma dernière journée chez Apple, péter un câble, me déshabiller, oui! Être viré de mon boulot et gagner ma vie pendant 2 ans pendant que je galérais sur scène avec des petits publics de 5 personnes, mais j'ai pas fait ça. J'ai vraiment démissionné, donc le gouvernement m'a rien payé pendant 2 ans. Mais l'avantage, en fait, c'est que j'ai touché aucune acidique de personne. So it's cool. Thank you.
Tu sais, des fois, je sais pas si ça arrive pour les Français, mais en tout cas pour les Anglais, des fois on regarde un mot trop longtemps. Et après, tu regardes l'écriture du mot, tu fais « ce mot, il est bizarre ». Tu le répètes plusieurs fois et le mot, je ne sais pas si ça t'arrive.
Peut-être, j'essaie de trouver des mots, mais là, j'en ai pas.
Non, mais pas forcément, parce que c'est des mots banals, tu vois, tu vas dire, c'est un mot, genre le mot banal, tu vas aller le regarder et tu vas dire « ah oui, le mot anal est dans banal ». Tu dis « ah, c'est drôle, j'avais jamais pensé à ça ». Bah, elle s'est dit que c'était ce truc-là où j'entendais, au moment où j'allais démissionner de mon poste, tous les Français autour de moi, qui parlait des acidiques, ouais, il faut essayer de choper les acidiques et tout ça. Peut-être la 10e fois que j'ai entendu, dans ma tête, j'ai entendu ass et dick. Et je dis, bah, elle est drôle, c'est drôle ouais. Comme jeu de mots. Mais moi, mon problème, c'est que mon patron, il était canadien. Et donc, lui, il connaissait pas les règles en France. Et puis, au final.
En fait, t'as pas vraiment démissionné, c'est genre.
Si, j'ai vraiment démissionné. Et c'est juste que j'ai demandé la rupture conventionnelle. Ouais. Et Apple, ils ont dit, bah, non. C'est okay. Toi qui démissionnes. C'est ton problème, en fait, tu démissionnes. Et donc, du coup, ouais, je suis parti comme ça. Et puis après, ouais, je sais pas d'où c'est. J'ai peut-être raconté ça.
Ouais. En tout cas, c'est le fait, en tant qu'anglais, de voir des différences culturelles et de dire qu'en fait tout le monde passe à côté et toi d'un coup t'arrives avec une vision complètement différente de celle de l'étranger.
Ouais.
Et tu viens voir des trucs marrants. Et notamment t'as cette vanne sur le thermomètre qui fait que nous en France on se le met dans l'anus, le thermomètre pour avoir la température. Mm-hmm. Et qu'on n'a même pas conscience, je pense, que dans la majorité du monde les gens font ça sous le bras ou dans la bouche quoi, si ouais. On voyage pas beaucoup et qu'on est habitué à ce truc là.
En parlant de cul aussi, c'est quelque chose, en France, les Français sont obsédés par les culs, right? Surtout insérer des choses dans leur propre cul en France, right? Les suppositoires, on n'a pas ça en Angleterre, nous on prend les médicaments par la bouche, et si ça fonctionne pas, c'est les injections, right? Mais en France, dès qu'on fait « Achou, get in there now, go, go, go !»« Dégueulasse, what are you doing ?» Et en plus, pour savoir si on est malade ou pas en France, le thermomètre pour mesurer la température, ça se met dans le cul aussi. Je sais pas comment ça se passe en Suisse. Comment vous faites en Suisse? Dans la bouche, ok? Like in England. That's amazing. Pas en France, mon ami a dit, ouais, j'étais malade, j'ai pris ma température. Woo! J'ai fait, c'est bizarre ton affaire, je comprends pas. Il me dit, non, c'est tout à fait normal, Paul, en fait, c'est tout à fait normal. Pourquoi, qu'est-ce que toi, tu fais en Angleterre, connard de Brexit? Ben, moi, je mets ça dans la bouche ou en dessous du bras. Il me fait, non, Paul, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. C'est pas précis comme température. C'était ça l'excuse qu'il m'a donné. C'est pas précis, c'est pas précis. Si tu veux que ça soit précis, Paul, il faut ajouter 0,5 degrés à chaque fois. Eh ben, faisons ça, alors. Moi, ça me dérange pas du tout de faire un peu de maths.
T'as une anecdote sur cette vanne par rapport au fait que Louis C.K., qui est un humoriste américain qui a eu des petits problèmes avec la justice aux États-Unis. Il est venu à un moment donné vivre en France. Et du coup, donc Louis C.K. c'est quand même un humoriste très connu, très fort aux États-Unis. Il est venu un peu en France et il a fait des petits passages et un petit spectacle sur sa vie en France. Et notamment une vanne... En fait, il a fait la même vanne que toi sur le thermomètre dans le cul. Et justement, est-ce que c'est des vannes qui viennent naturellement pour des humoristes étrangers, quoi ? Est-ce que c'est là-dessus que tu t'appuies ?
Ouais, alors... mon autocritique sur moi-même, et je sais que c'est des critiques que d'autres humoristes font sur moi dans le monde anglophone, parce qu'il y a un petit milieu d'humoristes anglophones à Paris, de genre une cinquantaine de personnes que aucun humoriste français connaît. Mais enfin, les anglophones, en tout cas en général, même s'ils ne sont pas humoristes, ils me reprochent de faire les blagues simples que tout le monde, tout expat a vécu en France.
D'accord.
Et c'est vrai. C'est totalement vrai, sauf que bah, personne d'autre, tu vois, enfin des gens lambda qui sont même pas humoristes, ils se disent ouais putain, moi j'avais remarqué tout ça aussi, genre ouais, mais
tu l'as pas dit,
t'es pas monté sur scène pour devant des gens à prendre des bides et les faire. Mais oui, c'est vrai, effectivement il y a pas mal de blagues, genre le truc d'acédique, je crois que n'importe quel anglophone il entend un français dire acédique. Bon, il entend un peu moins maintenant parce que ça s'appelle plus acédique. Mais ouais, c'est des trucs, quand tu remarques tout de suite, t'as un truc différent. C'est comme en Angleterre, les Français, quand vous dites « Ouais, je comprends pas vos robinets là, où il y a deux robinets, pourquoi il n'y a pas un mitigeur qui mélange les deux ?» Le froid, il est moins 15 et le chaud, il est plus 70. Donc tu te brûles et c'est vrai que nous, en Angleterre, on est tellement habitués à ce système-là qu'on se pose pas cette question jusqu'à que quelqu'un nous dise, mais
c'est bizarre,
vous remarquez pas que c'est bizarre? Enfin, et donc c'est exactement ça.
Et tu peux me raconter un peu justement cette histoire avec Louis C.K., l'anecdote sur Copy Comics?
Ouais, en fait, j'étais en brunch avec des amis de ma femme qui ont un enfant. Et pendant le brunch, là, je crois que la petite, elle était malade. Et du coup, le père, il dit, ouais, je vais aller prendre sa température. Et je sais pas comment c'est arrivé dans la conversation. Il dit, ouais, je crois pas qu'il a annoncé à tout le monde, je vais prendre sa température dans son cul, faites attention. Mais c'est arrivé dans la conversation où il a annoncé ça. Et je dis, pardon, mais comment ça, tu le prends dans le cul?
Et donc là, ils t'ont expliqué.
Et là, évidemment, tout le monde autour de la table, c'était des Français. Donc je dis, mais c'est normal pour vous? Tout le monde était, ouais, c'est pas normal pour vous? Je dis, bah non, nous, on met ça dans la bouche ou en dessous du bras. Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Et il me dit, parce que c'est plus précis de 0,5. Et moi, je réponds, bah, ajoute 0,5 alors. Et visiblement, c'est un constat que beaucoup d'expats ont en France, parce que Louis C.K. Attends, avant ça, parce que sinon, je vais dans l'ordre. Donc, je fais cette blague depuis plusieurs années dans mon spectacle. Je fais les trois dernières de mon spectacle au Casino de Paris et on vend zéro billet. C'est le 2, 3, 4 janvier 2019. Et là, on est genre le 2, 3, 4 décembre et je crois qu'ils sont à moitié pleins. Et je dis à ma productrice, OK, je vais mettre des extraits de mon spectacle qu'on avait tourné, toi et moi, 9 mois
à
la Nouvelle-Ève en mars 2018, dans le passage du thermomètre. Donc, je mets ça. Deux jours plus tard, il y a le spectacle de Louis C.K. fuité, l'audio, dans un comedy club, je crois, à Arizona, qui se retrouve sur YouTube. Donc, il n'y a que le son, parce qu'il y a un mec qui a juste enregistré votre nocal sur son téléphone. Et dedans, je ne me rends pas compte que ce truc qui sort. J'ai un appel d'un autre humoriste qui s'appelle Bunaimin, qui est avec Louis C.K. à ce moment-là, quand il m'appelle. Il me dit, Paul, j'ai une question pour toi par rapport à ta blague sur le thermomètre dans le cul. Ça fait combien de temps que tu le fais? Je dis, bah, là, on est en 2018, décembre 2018. Je dis, bah, ça fait 2 ans depuis que j'ai commencé le spectacle et tout. Il me dit, ah, OK, parce que du coup, il y a un problème avec Louis C.K. Je dis, comment ça? Il dit, bah, en fait, il fait une blague quasiment pareille. Et donc, du coup, je découvre qu'il y a le truc fuité. Je vais écouter le passage fuité et c'est mot pour mot la même blague. Sauf que lui, il y fait un degré.
Ouais.
Parce que visiblement, lui, le français avec qui lui a dit l'excuse, il lui a dit, bah, c'est plus précis d'un degré.
Et ça, c'est récupéré par Copy Comics.
Et ça, c'est récupéré. Bah, en fait, dans les commentaires en dessous de ma vidéo sur les réseaux, je suis accusé, genre, ouais, Copy Comics, Louis C.K., Copy Comics, Louis C.K. et tout ça. Il y en a quelques-uns qui répondent pour dire bah non, moi j'ai Paul, il a fait, enfin c'est des fans à moi qui répondent pour dire bah non, etc. Donc là ça part un peu,
tu reçois un message de Copy Comics,
ouais, en gros cette blague, explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe, parce que Louis Kay a la même blague. Et là je suis un peu en mode bah ouais, je sais pas, parce que moi j'ai pas été voir son spectacle. Et en vrai, c'est le passage à Montreux qui m'a sauvé.
Le passage. C'est ce que j'allais dire, le passage qui a été diffusé au final de Montreux, qu'on entend là. C'est celui qui était la preuve comme quoi tu avais fait la vanne avant Louis C.K.
Ouais.
Et comme Louis C.K. est plus connu que toi, c'est entre guillemets celui qui t'a sauvé.
Ouais.
Parce que les gens pensaient que c'était toi qui avais copié sur Louis C.K. Et c'est marrant parce que, en fait, je parle de ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'accepte pas aujourd'hui que les vannes peuvent être dans l'air du temps et qu'au final, deux personnes, sans forcément se connaître et s'entendre, peuvent avoir les mêmes vannes au même moment. Quoi.
Oui, on peut tous créer les mêmes blagues parce que quand t'écris des blagues, il n'y a pas 50 000 versions d'une blague. C'est soit un retournement, il y a une surprise, tu dois chercher une surprise parce que tu dis 1, 2, 3 et le troisième, c'est la surprise et tu trouves le truc inverse. Il y a des techniques, soit tu les apprends ou soit tu les connais juste parce que c'est ce qui fait rire les gens. Et donc, si tu dis, c'est bizarre, cette culture, elle met des thermomètres dans le cul et la raison pour laquelle ils font ça, c'est plus précis, de 1 degré, forcément ton cerveau, il dit, mais pourquoi t'ajoutes pas juste 1 degré et tu mets ça dans ta bouche?
Ouais.
Au lieu de pénétrer des gens dans l'anus tout le temps. Donc oui, il y a des trucs flagrants dans Copy Comic qui sont, tu fais ouais non, tout est copié, mais il y en a qui sont un peu tirés par les cheveux. Ça se dit tirés par les cheveux.
Ouais.
Où tu dis ouais, c'est un peu la même idée, mais bon, tout le monde a eu l'idée que quand Facebook a racheté Instagram pour 1 milliard ou 4 milliards ou je sais pas trop quoi, tout le monde a fait la blague.
Ouais, mais moi je l'ai téléchargé gratuitement.
Ouais. Limite, il y a des gens qui ont un compte Twitter qui la font avant les humoristes sur scène.
En fait, c'est ça, c'est que limite maintenant quand tu fais des one-line, c'est bien de checker Twitter avant avec les mots-clés de ta blague pour savoir si elle a été faite.
Ça devient super agressif alors que c'est juste une idée que tu as eu en même temps que quelqu'un.
Ouais, mais en fait, 50 millions ont eu la même idée de Twitter. Mais il est con Zuckerberg, il a acheté 1 milliard, moi je l'ai téléchargé gratuitement. Podamts.
Ouais.
Donc j'étais malade récemment, j'ai plus la température à l'anglaise en dessous de la langue et ma femme française elle est rentrée, non bon tu peux pas faire ça, c'est pas précis, je sais, I know, je vais ajouter les 0,5 après, t'inquiète, c'est pas grave. Je dis non, c'est pas ça le problème Paul, c'est en fait il y a 15 jours moi j'étais malade. Oh fuck off. Et le chat aussi. Donc je suis obligé maintenant par précaution de mettre le thermomètre dans mon cul à chaque fois que je suis malade. Juste au cas où. Et franchement, c'est génial. C'est vraiment agréable comme sensation, c'est génial. Je sais pas pourquoi les Français ont inventé l'excuse, ouais, c'est pas précis. It just feels fucking great, that's why you do it in France. Bon, écoutez, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde parce que c'est hyper difficile à maintenir pendant 7 minutes. Oh, le bâtard. Je suis désolé, je suis un connard.
La vérité, je crois que c'est juste que j'ai passé 5 ans en France quand j'étais petit, mais j'étais dans une école internationale américaine avec une mère irlandaise et un père anglais. Et donc, j'avais 4 accents autour de moi quand j'étais tout petit. Les gens, ils disent que j'ai un don pour les accents, mais c'est pas ça. C'est juste que je crois que petit, j'étais tellement...
Imprégné.
Ouais, d'accents différents. Tu sais, je trouve que c'est un peu la même raison pour laquelle les Français, vous avez un accent fort quand vous parlez anglais. Et les Suédois, non. C'est parce que les Suédois, ils n'ont pas de doublage. Et donc, depuis tout petit, ils écoutent des séries et des films en VO. Ils ont l'oreille pour écouter l'anglais ou l'américain ou l'irlandais ou whatever it is. Et en France, comme tout était doublé, enfin notre génération a tous regardé des trucs doublés, bah on n'a pas eu l'accent anglais quand on était petit. Okay. Tu vois.
Après, on a pas mal voyagé ensemble. Tu parles aussi en espagnol sans accent.
Oui.
Et je t'ai même vu faire un truc. On était en Suisse et on a parlé avec une Romanche, qui est une petite région dans la Suisse où ils sont 40 000 à parler une langue, qui a des bases latines, qui est entre l'italien et le français, je pense.
Ouais.
Et du coup, on commence à discuter en romanche avec elle, tu l'écoutes et tu comprends, sans traduction,
ouais.
Alors que c'est une langue que personne ne parle. T'as quand même fait des études dans langue, t'as une facilité pour ça.
Oui, j'ai fait mes études à l'université en espagnol et en français, et un peu le portugais, j'ai fait un an de portugais. Je comprends un peu le portugais, je comprends un peu l'italien, enfin toutes les langues qui sont liées au latin, je les comprends à 60%.
Ouais, moi je t'ai vu faire, on va dire 90, mais...
Non, c'est pas 90. Ça dépend si la conversation, si c'est des conversations dans un bar, oui, mais si c'est des trucs politiques ou avec un vocabulaire très précis. Tu vois, genre j'étais à Londres récemment et je parlais d'un pote de trucs bébé et je me suis rendu compte j'ai aucun vocabulaire de bébé en anglais parce que j'ai jamais eu d'enfant en Angleterre. Donc ouais. Je sais pas comment on dit Un transat en anglais. Et eux, ils savaient pas non plus parce qu'ils ont pas d'enfants non plus. Donc
au final, c'était. Tu parles mieux français qu'anglais en ce moment.
Bah, dans le domaine des enfants, oui. Quand... Ouais, je suis un connard, je suis désolé. Mais je me sens obligé de commencer avec un faux accent de merde parce que les francophones, vous me croyez pas quand je dis que je suis anglais avec cet accent-là. Parce que c'est vrai, normalement, les anglophones, quand on parle une autre langue, on parle vraiment comme des couilles. On est vraiment là, ouais, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Voulez-vous coucher en chanté? Et donc les francophones me croient pas, et je comprends. Mais je suis vraiment anglais, en fait, à moitié. Ma mère, elle est irlandaise. Mon père, il est anglais. Moi, je suis né là-bas. Donc je suis vraiment, vraiment 100% alcoolique. C'est juste, j'ai pas d'accent parce que j'ai vécu en France pendant 5 ans quand j'étais tout petit. Et quand on est tout petit, on a un peu une éponge au niveau de l'accent. Donc du coup, j'ai pas trop d'accent quand je parle français. Mais je fais énormément de fautes parce que la langue française, c'est une langue de merde. Parce que même vous, vous savez pas la parler correctement. Parce que je vous vois, les francophones, vous corriger entre vous, c'est incroyable! Si pour vous, la langue, elle est compliquée, pour nous, elle est impossible à gérer à 100%. Donc moi, je fais des fautes quand je parle français, mais je fais pas les mêmes fautes que vous, je fais les fautes d'anglophone. Et en fait, des fautes d'anglophone, sans l'accent anglophone, ça passe pas. Et je me suis rendu compte que les francophones, en fait, pensent pas que je suis un anglais qui parle très bien français, ils pensent que je suis un français, mais con! Et les gens, ils buguent devant moi, ils font des têtes bizarres quand je fais des fautes de base, genre je vire une croissant, ils vont faire... Ils comprennent pas pourquoi.
Tu penses vraiment que la langue française, c'est une langue de merde?
Non, c'était juste pour la blague, parce que vous avez beaucoup de mots incluant de la merde dans la langue. Non, c'est pas une langue de merde du tout, c'est juste, elle est compliquée, j'ai l'impression qu'elle est... C'est une des langues qui est la plus compliquée pour les gens natifs. Parce que les Espagnols, ils n'ont pas du mal avec leur propre langue.
Pour les Français, quoi.
Ouais, et les Anglais, on n'a pas vraiment du mal avec notre propre langue. Mais vous avez vraiment du mal avec votre propre langue, à l'écrit.
Ouais, on se corrige nos mails. On...
Ouais, il y a des phrases où les gens, ils font « Ah ouais, ça se dit comme ça
!» Oui.
Et en plus, par rapport à nous, vous apprenez votre langue à l'école. Nous, on ne l'apprend pas. On n'apprend pas notre grammaire, on n'apprend pas, on n'a pas des cours d'anglais, genre, c'est alors vrai? Voici comment faire pour...
T'apprends pas à écrire.
Avant d'apprendre le français, genre à l'université, j'aurais pas pu te dire c'est quoi un nom ou un verbe, oui, mais un adjectif et tous ces trucs-là. Parce qu'on n'apprend pas ça. Okay. Ou on l'apprend, mais pendant 2 secondes. Parce okay. que tu demandes à n'importe quel anglais, what's the subjunctive? Ils vont faire, pardon? Ouais, ils vont dire, I'm sorry, what the subjunctive? Is that that new pizza place in East London? Donc on connaît très mal notre langue, mais on n'a pas de problème avec vous. Vous apprenez votre langue et adulte, vous en chiez pour dire. Alors, si je dis l'image qui a été créée, c'est C-R-E-E-E ou E-E-E ou E-E-E ou comment, combien d'accents, combien de... Ouais. Ça s'accorde avec quel truc?
On va chercher sur Internet pour savoir qui a raison.
Ouais, et puis après, il y a des forums entiers.
Des forums de conjugaison.
de gens qui font, non, mais en fait, à l'époque... Donc, c'est pas une langue de merde du tout, c'est juste qu'elle est... Elle est difficile.
Je passe pour un con et ça m'énerve vraiment parce que j'ai vraiment essayé de faire des efforts pour apprendre le français. Et parce que vivre dans un pays quand on est tout petit, ça suffit pas. Il faut continuer à apprendre, à s'améliorer. Et j'ai décidé de faire des études à l'université en français. Et quand on fait des études en Angleterre comme ça, il faut partir pendant un an, s'améliorer dans un pays francophone. Comme j'avais déjà vécu un peu en France, je voulais découvrir autre chose. Donc j'ai décidé pendant un an de m'améliorer en français au Québec. Personne m'avait prévenu que c'est pas là où il faut s'améliorer en français. Et je me suis rendu compte très très vite que partir au Québec s'améliorer en français, c'est comme partir en Angleterre s'améliorer en cuisine. On a les mêmes ingrédients, mais on fait n'importe quoi avec.
C'est une histoire vraie, du coup.
Oui, je suis parti au Québec. Alors la vraie histoire, parce que c'est un peu raccourci encore une fois dans le sketch, mais c'est que je faisais des études à l'université en français. Et t'es obligé, quand t'es en Angleterre, quand tu fais une licence en langue, t'es obligé de partir un an dans le pays dans lequel tu parles la langue.
Ouais.
Ce
qui paraît normal au final.
Oui. Et donc, je suis parti là-bas pour cette année à l'étranger. C'était pas pour apprendre le français, c'était pour continuer à apprendre le français, entre guillemets. Et je pars là-bas, j'avais mon poste chez Apple qui était un truc temps partiel à Londres. Et donc, j'ai transféré, j'ai commencé à bosser dans un magasin
Québec.
Au Québec, qui n'était pas à Montréal, parce qu'il n'y a pas d'Apple Store à Montréal même. C'était dans une banlieue qui s'appelle Laval, qui est genre l'équivalent de Laval en France. Tu vois, c'est au milieu de nulle part. Et il y a un gros centre commercial qui s'appelle le Carrefour Laval. Et dedans, il y avait l'Apple Store Carrefour Laval, bonjour. Et donc, du coup, j'ai transféré à ce tout petit magasin qui faisait la taille de ce studio-là.
Quand est-ce que tu as compris que le québécois, c'était pas le français?
J'ai compris ça avant de partir au Québec avec ma copine à l'époque. On a regardé, parce qu'elle est partie avec moi, on a regardé un film qui s'appelle Bon Cop, Bad Cop.
Et t'as une sueur froide en te disant shit.
Ça va être compliqué, ouais. Ça va être vraiment compliqué.
Ça m'a pris 3 mois à comprendre l'accent, les expressions. Et à l'époque, pour financer mes études, j'ai décidé de prendre un boulot temps partiel chez Apple, dans les Apple Store. Et mon poste chez Apple, c'était le responsable des clients en colère. Et les Québécois en colère, j'étais pas du tout prêt pour ça! Premier jour, j'arrive, il y a un mec qui arrive, il est énervé, je vois dans ses yeux qu'il est énervé. Il vient avec un iPod dans sa main, il vient me voir et il me fait « Ben là là !» Tout de suite, j'étais perdu. Aucune idée. Fait ben là là, cette affaire là là, ça marche-tu chez Windows, Callis? Parce que tabarnak, j'ai pogné cette marque là là, ça marche pas en tout. Toi là, tu vas m'arranger ça tout de suite, OK? Désolé, monsieur. En fait, je viens pas d'ici. C'est pour ça que mon français, c'est de la merde. Désolé, voulez-vous que j'ai? Enchanté!
Toi, tu as fait 3 galas, enfin, tu as fait 3 passages au Festival de Montreux.
Ouais, je suis en fait, j'ai été 2 fois au festival, mais en fait, les 2 passages qui sont sur YouTube de Montreux, les 2 français, ont été tournés la même année.
Ah, d'accord, donc les 2.
Parce que j'ai fait 2 galas dans la même année, et du coup, les 2 ont été filmés, mais ils ont été sortis un an. Séparément sur YouTube. Et le gala anglais, c'était la 2e fois que j'ai été. Et puis le passage, c'est dans le gala que j'ai animé.
C'était pendant un gala que tu présentais avec Sebastian Marx.
Yes.
Et c'était que en anglais. C'est-à-dire que c'était un spectacle qui était que en anglais. Et toi, tu viens, du coup, tu fais un passage qui est que en anglais.
Mm-hmm.
So I wanted to share with you guys the big news in my life since I was last in Montreux. I got married! Yeah! Don't get too excited though, she's French. She wasn't that excited about it when I asked her either. I asked, I was like, oh, will you marry me? And she just went, ouais, pourquoi pas? Why not? She wasn't excited. And she had the right not to be excited as well, because the proposal was shit. I fucked up the whole proposal. And when you do a proposal, it's supposed to be good. Everyone asks you, oh, the proposal, was it good? Was it romantic? How was the ring? Was it in a restaurant? Did she cry? Yeah, she cried. But for the wrong reasons.
Sur ce podcast, je suis obligé de mettre des passages en anglais de toi sur scène, tu vois. Et je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis 20 minutes en français et là, ils se retrouvent coincés, tu vois. mais j'ai l'impression que t'as... Enfin, moi, c'est un peu ce qui m'a choqué. C'est que je sais pas si c'est l'accent ou si c'est le fait de parler, mais j'ai l'impression que quand tu parles anglais pour un français, on te comprend et ça nous fait du bien. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus facile à te comprendre, toi, que quelqu'un d'autre qui va avoir... tu vois, par exemple, je suis venu te voir ton spectacle avec ma maman, que j'embrasse, et qui ne parle pas vraiment bien anglais, mais qui a des notions, et elle comprenait ce que tu disais.
Ouais.
Est-ce que tu te rends compte de ça, que les Français comprennent plus ton anglais que,
c'est
que Pete Doherty, tu vois?
Ouais, c'est une remarque qu'on me dit souvent. On me dit, le truc, c'est toujours, putain, je pensais que j'étais une merde en anglais, mais j'ai tout compris. Et je crois que c'est au fur et à mesure de tester des trucs, même quand tu joues pour un spectacle en anglais à Paris, 90% du public, c'est des Français. En fait, je crois qu'inconsciemment, j'ai rendu mon anglais beaucoup plus accessible. J'utilise pas des expressions idiomatiques. Mon accent, il est à peu près correct. J'essaye de ralentir un petit peu et utiliser beaucoup de gestuels. Les Anglais, on parle pas beaucoup avec nos mains, mais moi, sur scène, quand je joue en anglais, je suis comme un Italien, quoi, pour augmenter
la compréhension.
Mais je crois que je me suis pas assis pour dire, ils ont pas compris cette blague. Peut-être si j'ajoute, c'est juste. Un truc naturel de la communication humaine. Quand tu vas dans une boulangerie en Allemagne et tu parles pas allemand et ils parlent pas anglais ou français et tu dois demander genre elle où la banque, tu mimes la carte qui rentre dans la machine pour mettre le code et tirer de l'argent, ouais. Tu vois. Donc c'est quelque chose qu'on fait quand on va à l'étranger et les gens ils parlent pas notre langue, donc c'est sur scène je crois que je fais ça inconsciemment, ouais.
Here's how I fucked up the proposal. The initial plan, I had this initial plan, amazing romantic weekend in London, right? Now, London is, fuck off. Somebody's like, hey, Londres, fuck you. London's romantic. Anyway. It's romantic for us, London, because that's where we first met. 11 years ago, my wife and I, we met 11 years ago in London. And so my plan was to retrace the whole first date. We were going to do the whole thing, go to the pub where we went on our first date, have the same drinks, choose the same food. By the way, my wife chose baked camembert on our first date. Camembert rôti. On our first date! Camembert rôti. Really? Baked camembert? That's a fucking risk. That's how good looking she is. I still kissed her even though her mouth tasted like fart.
En fait, le passage de demande en mariage, je l'ai pas vraiment beaucoup testé avant Montreux. Donc je savais pas comment l'aborder. J'avais raconté l'histoire plusieurs fois à des potes quand forcément ils disent "Ah, tu t'es marié, c'était quoi la demande en mariage ?" Et donc j'avais raconté quelques fois, mais j'étais pas forcément à l'aise à 100% dedans. Mais la différence avec moi, c'est qu'en anglais ça va, si je suis pas entièrement à l'aise, je sais comment rattraper le truc, ouais. Et comment en rajouter pour que ça soit drôle. Mais en français, il faut vraiment que ça soit bien rodé, parce que sinon, j'arrive pas vraiment à improviser, ou si ça se passe mal, j'ai pas les mêmes réflexes en français. Donc je l'avais que fait en anglais, ce truc-là.
So that was the plan. We were going to go to the pub, order the drinks. Then we were going to go to the same club that we went to afterwards, where we kissed for the first time, and I was going to propose to her at the club, right? Problem number one is that the club doesn't exist anymore. Yeah, fuck that one up. Doesn't exist. The club closed. It's now become the Apple Store in Covent Garden in London. Right, which is ironic because I used to work at Apple, but I wasn't going to take her down to the stock room and be like, oh, will you marry me? I do? It doesn't work. I'm not like that. I'm a bit geeky, but I'm not. So I was like, all right, cool. We'll do it outside the Apple Store. No big deal. Here's the big problem that happened. Just before we went to London, she decided to have her period, right? Decided. She didn't decide. Ladies, you don't decide to have your periods. That's not it, but that would be good if you could, right? I think it would be good for you. Harvey Weinstein guys who try to have sex with you and you're just like, pow! Not today, bitch! That would be good.
T'as quand même fait un virage où tu parles beaucoup moins des différences culturelles et de ta position finalement en tant qu'anglais en France. Tu continues à en parler aussi, mais t'es beaucoup plus intimiste sur ta vie. C'est-à-dire que tu parles de ta fille, tu parles de ta femme, tu parles de ta demande en mariage, etc.
Ouais.
Et je voulais savoir pourquoi tu switches là-dessus, quoi. Et pourquoi tu continues pas sur quelque chose, entre guillemets, qui a fait ta force de frappe, la différence culturelle.
Bah, encore une fois, c'est parce que c'était devenu ma vie. Mes premières blagues, quand je les ai écrites en 2016-2017 avec le premier spectacle, j'étais pas encore marié, j'avais pas encore d'enfant. Donc forcément, les trucs qui me sautaient à l'œil pour trouver des trucs drôles, c'était que les différences culturelles, langage, etc. Et une fois que tu te maries, bah, tu peux trouver quelques blagues en plus. T'as des anecdotes en plus à raconter. Et quand t'as un enfant, après, avoir un enfant, c'est ouais, tellement d'expériences différentes. Et donc, du coup, c'était pas un choix. Après, j'aurais pu choisir de ne pas parler de ça et trouver autre chose. Mais c'était juste les trucs qui m'inspiraient. Surtout que le deuxième spectacle, je l'ai rodé en août 2019. La petite, elle est née en juin 2019. Et ensuite, août 2019, je suis obligé de roder un nouveau spectacle parce que je le commence en octobre. Donc, août 2019, je fais 4 fois par semaine.
Ah, 3 mois, quoi.
Ouais, et donc, c'était des trucs, bah, c'était ce qui m'arrivait. Et je le fais plus maintenant parce que ça fait 3 ans maintenant qu'elle est là. Et les blagues, elles sont un peu vieilles, ou c'est plus ma vie maintenant. Je me sens, j'ai plus autant la haine de ma vie que j'avais il y a 3 ans quand elle est née. C'était vraiment difficile et on galérait de ouf, et on galère un peu moins maintenant. Donc du coup, c'est, si je raconte ces histoires-là, c'est un peu j'ai du mal à les assumer parce que je me sens plus autant énervé qu'à l'époque.
the marriage is going well. We had a baby 5 months ago, so so yeah, thanks very much. It's difficult. She's a little shit. She complains all the time. Wah, 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 just all the time. We've made a Parisian. Complaining Parisian. We didn't need another one on the planet, but she complains all the time. And I know that her first words are going to be, oh, Daddy, you bought me plastic toys. It's not very eco-responsable. Shut the fuck up. She already doesn't drink her mother's breast milk because she's become vegan. 5 months, we've got a vegan. But married life and babies is great. Yeah. Guys, thank you very much for listening to me. That's all for me. Thank you very much. Montreux. Montreux, yes.
Je vais juste parler avec toi pour un peu finir. C'est le fait que tu t'énerves beaucoup quand t'es sur scène. Tu sais, t'es souvent en train de crier. Tu peux partir un peu. Et t'as, je trouve, cette capacité, enfin, en tant que personnage comique, qui est pour moi très drôle, c'est que t'es capable de t'énerver, de te prendre la tête sur des choses qui sont au final un peu pas graves. Tu vois, un peu futiles et tout. Et du coup, je voulais savoir si ça, c'est travaillé, c'est quelque chose qui vient avec le temps, ou c'est quelque chose... tu pourrais jouer pas énervé, ou est-ce que... Tu vois, comment tu...
Ouais, c'est intéressant. Je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce truc-là. C'est que, un, les humoristes qui me font plus rire, c'est des humoristes comme ça.
Okay.
J'aime cet humour-là, donc je crois que les humoristes qu'on aime bien, on finit par un peu faire la même chose. Tu sais, si t'as un humour d'observation et tu kiffes ça, genre des Jerry Seinfeld qui font les trucs de tous les jours. Ouais, tu copies pas, mais c'est juste t'aimes ça, donc tu répliques ça. Et le plus difficile, il y a une autre partie aussi où je me dis c'est le manque de confiance.
Ah oui.
Sur scène, de me dire, oh, je suis pas sûr si cette blague elle fonctionne si je suis pas.
Du coup, tu la cries.
Donc, je la crie pour que les gens ils soient obligés de rigoler, tu vois. Parce qu'en vrai, je fais des blagues, les blagues elles sont pas bonnes, mais ça rigole quand je crie, tu vois. Mais en vrai, c'est pareil avec moi d'avoir quelqu'un qui s'énerve sur le fait que tu sais jamais dans quel sens mettre des batteries dans ton enregistreur de podcast, si c'est plus moins, c'est quel le plus moins, dans quel sens, et de partir en couille là-dessus, je trouve ça hilarant.
Ouais, comme
ça,
si moi, c'était un truc qui allait changer le monde.
Ouais. Exactement. Mais le truc qui est difficile dans ça, c'est aussi de trouver la colère authentique dans ce truc-là. Et au début, quand on commence dans l'humour, je crois que et on a ce style d'être énervé pour rien. Et c'est dur d'être authentique dans la colère. Et donc, ouais, les gens, ils disent, oh, le mec...
Oui, il en fait trop, quoi.
Ouais. Et donc, c'est de trouver le sweet spot, l'énervement parfait sur un sujet. Quand je commençais à faire le deuxième spectacle et je commençais à m'énerver sur avoir un enfant, c'était trop proche de ma vraie vie, de la réalité. Et donc, c'était moins drôle. Et c'était plus, les gens, ils disaient, putain, le mec, il est vraiment énervé sur le fait d'être papa, quoi. Et maintenant que j'ai un peu de recul sur ça, je suis énervé, mais d'une façon un peu plus drôle parce que j'ai un peu de recul sur le...
Oui, c'est exagéré. Donc, du coup, ouais, c'est marrant, quoi.
C'est ça.
Et bah ouais, parce que au début, quand t'as commencé, t'étais en chemise blanche et cravate noire. Ouais, je sais.
Et du coup, tu vas assez loin dans mon Instagram. Ouais, ouais. Je suis habillé comme un mormon.
T'as tout quitté. T'as balancé quand même ton boulot Apple, hyper bien payé, où tu voyageais dans le monde pour faire de la scène.
Ouais.
Et t'as créé ce personnage et t'as rempli quand même deux fois le Grand Rex là. Là, t'arrives sur ton troisième spectacle peut-être cette année qui va.
Ouais.
Et tu vas jouer à Londres là en juin.
Ouais, là, on est sur les 7 dernières dates, 5 à Paris et 2 à Londres, fin juin. Et
fin juin,
on fait la captation, on va refilmer celui-là dans une salle mythique à Londres. Donc, ouais, j'ai hâte.
Ça te fait kiffer au final quand tu reviens un peu sur ça, quoi. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent peut-être potentiellement nous écouter en se disant qu'ils ont un boulot de merde et qu'ils rêveraient d'être stand-upper. Est-ce que tu penses que.
Ouais, en fait, c'est t'as pas moins de problèmes et c'est pas moins chiant qu'un boulot normal. C'est juste que, au final, le résultat, c'est pour toi-même et c'est pas pour une compagnie. J'avais mis sur mon fond d'écran pendant 6 mois, 1 an avant de quitter mon boulot chez Apple, la phrase « Ou tu suis tes propres rêves, ou tu vas finir par travailler pour quelqu'un qui suit les leurs. »
En anglais.
You either follow your dreams... Or you work for somebody who is following theirs.
Okay.
Et du coup, même s'il y a des moments difficiles, alors c'est drôle parce que quand tu commences dans l'humour, tes difficultés sont remplir la salle, être marrant et avoir des dates dans des comedy clubs plus prestigieux. Et moi, je me souviens d'être à ce moment-là et je regardais des humoristes, entre guillemets, plus expérimentés et qui étaient plus hauts dans leur carrière que moi. Et je me suis dit, putain, j'ai hâte d'être à leur niveau parce que j'aurai plus ces problèmes de, oh, je joue devant 4 personnes aujourd'hui, oh, mes blagues, elles sont pas, j'ai hâte. Et en fait, quand t'arrives un peu plus loin, t'as pas moins de problèmes, c'est juste que les problèmes changent. Parce qu'après, c'est les problèmes de contrat, de diffusion, de combien d'années t'as droit à mes sketchs que j'ai pas droit de publier sur mes réseaux sociaux et donc, du coup, moi, je gagne pas de followers et.
Ouais, puis, c'est des problèmes que t'as pas envie de gérer, quoi.
T'as autant de problèmes au long de ta carrière, mais c'est juste qu'elles deviennent des problèmes différentes.
Mais t'es quand même content de ce que t'as
de ouf, ouais.
accompli.
Ou oui, oui. Même s'il y a des moments relous où tu dis, ouais, je suis en train de faire un truc que j'adore. Et dans le fond, ouais, c'est quand t'es sur scène, tout vaut la peine derrière.
Magnifique. Petite dernière question pour toi. Ouais. J'aime bien finir ce podcast avec un passage d'un humoriste qui n'est pas toi. Qui serait passé à Montreux, parce que pour le coup, pour que je puisse diffuser le son.
Alors, c'était un passage du Jamel Comedy Club.
Ça peut être un humoriste qui te ressemble ou pas du tout. C'est pas vraiment pour faire de la promo, c'est plutôt parce que ça te fait plaisir.
Je crois que je dirais Urbain.
Ah ouais.
Le passage d'Urbain, parce que j'ai tellement vu ce sketch grandir dans des comedy clubs différents et je me souviens il faisait ma première partie juste avant d'aller à Montreux et puis il était un peu stressé par rapport à comment ça allait se passer, c'est le premier Montreux et ouais il était nerveux et du coup je dis mais t'inquiète ces blagues là je les connais par cœur, enfin ils sont drôles, t'inquiète et on s'est vu après en tournée quand il va à ma première partie, il a dit ouais ça s'est bien passé, je suis content mais j'ai hâte de voir la vidéo qui sort, et quand la vidéo elle est sortie on s'est échangé des textos pour dire
il y a une grosse polémique avec les véganes
ah oui
et
oui,
on
oui,
en
c'est
parle
vrai.
Dans le podcast avec Urbain
c'est vrai il y a tout le truc de vegan, oui c'est vrai qu'il y a les deux passages mais le deuxième il est sorti du coup non,
oui et du coup il se justifie sur le fait de cette vanne et il explique pourquoi elle a été sortie de son contexte.
C'est vrai.
Merci, Paul.
Thank you very much, Mr. Felix Gimard.
Ciao.
À mon dernier Montreux, quand le passage est passé sur Internet, il y a une vanne qui a fait une petite polémique avec une communauté. Vous voulez que je vous la dise ? Évidemment. La vanne, c'était que ma meuf devenait végane et elle voulait que je le devienne aussi. Et je lui ai dit que c'était pas possible parce que j'avais une maladie de naissance, le goût. Bonne vanne. C'est bonne vanne. Elle est bien passée, si. Ah ouais. Mais alors quand ça passe sur Internet, les véganes, pas contents du tout. Eh, heureusement qu'ils sont pas costauds du tout, hein. Ah ouais, j'ai compris, en humour, tu vas toujours embrouiller des gens, donc maintenant, je m'embrouille avec les gens avec qui c'est sans risque. Voilà, mon prochain spectacle s'appellera « Les nains et les véganes ». Que ce soit clair, aucun problème. Mais en vrai, ça m'a embêté parce que moi, mon avis sur le véganisme est quand même beaucoup plus mesuré. Je vous explique l'histoire. Ma meuf, maintenant, elle est végane. À la base, elle était végétarienne.